Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Raphaël, le R de Girafe. J'ai un plaisir tout particulier aujourd'hui à recevoir deux entrepreneurs hors normes. J'ai nommé M. Éric Bidot et M. David Mabille, qui sont les cofondateurs de DBCom. Alors on va, DBCom est une agence de communication qui est bien connue au Havre. C'est un plaisir particulier parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. On a travaillé ensemble, on est plus que travaillé, on a même partagé des moments familiaux. Donc on va passer quelques minutes avec vous deux. Je vous propose, Éric et David, dans un premier temps de vous présenter. On va parler un peu de vos parcours individuels. Et puis ensuite, on va parler un peu du Havre, comme à chaque fois, puisque l'émission se déroule en deux parties. Donc on va commencer par David. Salut David.
Bonjour à Raphaël, bonjour Éric, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, oui, je suis un petit peu le local de l'étape. Donc David Mabille, je viens d'avoir 55 ans. Comme le disait Raphaël, j'ai... créé avec Éric il y a bientôt 25 ans, en mars 2025, on fêtera les 25 ans, l'agence DBCom. Alors tout ça, ça a résulté d'une rencontre, je ne vais pas parler du parcours tout de suite, mais cette rencontre avec Éric, elle s'est faite un peu par hasard. Il était, je crois, chez Delta Diffusion à l'époque. Moi, j'étais dans une société d'événementiel.
Vous étiez salarié, là? Vous n'aviez pas vos sociétés au départ?
Pas du tout. Non, on était salariés. Éric venait d'arriver. Et puis, voilà, j'avais un projet pour un client à apporter. Et en discutant, en échangeant autour d'un café, ça faisait 15 minutes qu'on se connaissait. Et je lui ai dit, écoute, moi, je vais avoir bientôt 30 ans. J'ai un projet, j'ai envie de créer une sorte d'annuaire de ville qui va s'appeler le Havre en poche. Il m'a sorti un annuaire de Caen, de son beau cartable d'écolier de premier de la classe. Et à partir de là, on s'est serré la main. Je lui ai dit, écoute, on montera cette affaire ensemble. Et 25 ans après, c'est ce qui s'est passé. Enfin, voilà.
Donc Éric, ça fait 25 ans que vous êtes tous les deux et que vous avez créé DBCom.
Absolument.
Et donc, toi, tu as un profil plutôt commercial, toi, à la base, David.
Oui,
pour
oui,
ceux qui te connaissent, il n'y a pas de doute. Mais...
Moi, j'ai un profil surtout. J'ai fait l'école supérieure des autodidactes, en fait, avec une mention très bien.
C'est une merveilleuse école.
Non, j'ai eu mon bac simplement. J'ai fait droit allemand à la fac, mais effectivement, rapidement, je suis rentré grâce au Havre Presse, Havre Libre, pour découvrir le monde du portage à domicile, vendre. Et ça a été une sorte d'évidence. Donc, ça a été une vraie richesse. Et c'est toujours, toujours une vraie richesse depuis plus de 35 ans.
Donc vous vous êtes rencontrés, tu m'as dit, en 2004, c'était quoi la date?
On s'est rencontrés en 97. En 97, on a eu cette conversation où, effectivement, on avait un petit peu la même idée sur la création d'un produit que les Havrais connaissent sous le nom de Havre en poche. Mmh. Et entre l'idée et la mise en œuvre, il s'est passé 3 ans. 3 ans où on a appris à se connaître.
Là, vous étiez que tous les deux, ou c'était déjà, vous aviez recruté du monde, ou c'est vraiment parti?
On a vraiment démarré tous les deux en 2000. Je dirais même plutôt, enfin, c'est plutôt fin 99, création de la structure en mars 2000. On a travaillé comme les tarés un petit paquet de temps, mine de rien. Et ça a pris très, très vite, puisque les gens nous ont considérés comme des gens bien. On faisait ce qu'on disait, on disait ce qu'on faisait, et ça a décollé en 2001-2002.
Donc là, c'était déjà une agence de communication où vous étiez monoproduit? Vous étiez essentiellement sur la rampe, vous êtes parti d'une idée?
On est parti d'une idée. David avait besoin, envie de voler ses propres ailes. Moi, pareil, puisque j'avais un parcours d'une dizaine d'années dans un groupe qui s'appelle Vivendi, où j'étais responsable d'une exploitation avec 180 salariés. Par contre, je m'ennuyais énormément. Nos idées de...
Donc la grosse structure, c'était pas fait pour toi? Parce que c'est quand même gros.
Non, ouais, la grosse structure n'était pas faite pour moi. Et puis, aussi bien David que moi, on a besoin d'oxygène, on a besoin de créativité. Et surtout, on a des caractères de cochon, donc il ne faut pas de patron, quoi. Ça ne marche pas. Liberté totale.
Donc vous créez votre entreprise sur ce postulat, pas de patron et une liberté avec les contraintes que ça a eu, parce que l'intérêt aussi et la complexité quand on s'associe, c'est quel contrat on va... C'est un vrai contrat de mariage. Donc comment vous avez organisé votre relation au départ pour que ça se passe bien? Parce que vous êtes quand même un petit peu des ovnis dans le monde de l'association. Vous êtes encore associé 25 ans après. C'est quand même suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner.
C'est vrai. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on est bien différents tous les deux. Le point commun qu'on a à la base, c'est qu'on est d'abord de bons commerciaux, de très bons commerciaux. Ça, c'est ce qui nous a fait décoller. Et puis après, on a eu l'intelligence d'identifier bien nos points forts. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, chacun a pris en charge la partie où il était le plus compétent, le plus efficient. Donc on s'est bien séparé les rôles, sans sans oublier de continuer à passer beaucoup de temps ensemble pour mettre à plat les idées qu'on avait, pour ne pas perdre l'essentiel, pour être conscient aussi des lacunes qu'on avait et l'un et l'autre.
Et des complémentaires.
On était complémentaires, puis on a bien compris que pour répondre à ta question d'agence de com, au départ, on n'était pas du tout agence de com, parce que pour nous, la com, on vendait de la pub, mais on ne savait pas trop ce que c'était de la com. Donc assez rapidement, on a eu l'intelligence ou la bonne idée, ou le coup de bol peut-être, de rencontrer des gens et des compétences, et puis de structurer une équipe qui nous a permis de répondre aux besoins des gens qu'on côtoyait. Fait comme ça.
Alors David, justement, vous avez des caractères, Eric le disait, assez différents. Comment toi t'as vécu, qu'est-ce que t'es allé rechercher dans l'association? Est-ce que tu aurais imaginé, d'ailleurs c'est une question à laquelle Eric pourra répondre aussi, voler de tes propres ailes et être plutôt un indépendant plutôt qu'un associé je sais pas comment tu vois les choses.
Est-ce que les choses, je les vois un peu comme, pour celles et ceux qui me connaissent, moi je suis quelqu'un qui peut paraître effectivement un peu décalé, ok très bien, mais j'ai l'esprit très structuré, je suis quelqu'un qui est très dans le détail, j'aime bien faire les choses correctement. Et le côté, oui, t'es un vendeur, t'es un tchatcheur, non, moi je suis, à la base, je suis quelqu'un qui aime énormément les gens. Le avant-poche, c'est une idée. Il y en a plein qui ont eu l'idée, on a réussi à le faire.
Oui, c'est pas si évident que ça. Il n'y a que de bonnes idées qui rapportent de l'argent.
Non, mais les bonnes idées, il faut le faire. Et pourquoi on l'a fait, ça reste un élément où je me mettais surtout à la place du commerce, en fait, à vrai, à l'époque. Et puis ensuite, peu importe, on a surtout essayé d'être en fait nous-mêmes. Je pense qu'on sait la question qui est posée. Je me suis pas projeté en fait comme ça. Ça s'est fait
donc
naturellement.
Vous vous êtes trouvé. C'était une forme
il y a un
de
état d'esprit. On a vécu des choses avec des hauts, des bas, mais on a toujours été toujours en phase, même si parfois on n'est pas toujours d'accord, mais on a toujours le même objectif, ouais, le même résultat.
On va en parler un peu après.
Mais c'est vraiment quelque chose, je pense, avant toute chose, c'est un état d'esprit. Il n'y a aucune jalousie vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Il n'y a aucun problème d'ego vis-à-vis de l'un ou de l'autre ou vis-à-vis des autres. Les choses, elles se font naturellement, très naturellement. Je pense que c'est une simplicité, et j'attire l'attention, on a 55-56 ans, on est dans une société qui n'est plus la même comme il y a 25 ans, mais justement, entre ce côté un peu de dématérialisation, digitalisation, le concret, la relation humaine, elle reste, à mes yeux, fondamentale, et je pense même qu'il ne faut pas la négliger. C'est pas parce qu'Internet est arrivé qu'il y avait tout papier, c'est pas vrai. C'est un peu pareil avec le digital, le côté de la relation humaine, le contact. Et puis, on est aussi des gens qui avons des idées, on prend des risques, on innove. Parce que si on regarde la
ça,
suite
c'est
du
sûr
avant-poche...
que vous êtes de vrais entrepreneurs. Hein. On regarde tous les projets, on va en parler de certains d'entre eux, mais vous avez beaucoup...
Puis opportuniste, en fait. Après, tu parlais de chance et tout, il n'y a pas de hasard dans la vie, il faut provoquer les choses. Quand on fait le avant-poche, on le fait, ça marche, on se dit, ouais, super, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis une opportunité, une amie, on se voit, on se retrouve à bosser pour la chambre de commerce de Fécamp, pour le film de Claude Lelouch, où il faut faire un village... Jamais on n'aurait imaginé, en fait, ce genre d'opportunité. Et ça se fait. Puis le contrat, vous allez le signer à Meugé Boski pour finaliser le truc. Donc, c'est fou, mais c'est comme ça. Puis là, on rencontre des gens, je pense à Jean-Pierre, des gens qui font partie de notre vie. Et puis ensuite, les choses, elles se sont construites au fil de l'eau. Et au fil de l'eau, je pense qu'Éric pourra mieux répondre que moi, mais toutes les personnes qui composent l'agence aujourd'hui, ce sont des individus qui ont créé leur place. On n'a pas un système RH bien spécifique. On a beaucoup marché au feeling. Je pense que
C'est un sujet qui est effectivement, tu viens de le dire, et là on va en parler un peu, mais sur le côté structuration, parce que ok, ça s'est fait naturellement, vous vous êtes rencontrés, mais comme tout projet, à un moment donné, il se structure, et c'est intéressant de voir comment vous avez passé ce cap d'entrepreneur à, j'allais dire, de deux indépendants qui se rencontrent avec une idée qu'ils partagent, à une structuration de société. Moi j'ai été témoin quand même ces 25 dernières années de la structuration et de votre parcours. C'est pas facile de recruter, c'est pas facile de d'embarquer des gens. C'était quoi votre... C'est peut-être toujours votre recette, mais est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette façon dont vous avez procédé?
Après, ça s'est fait... quand même beaucoup au feeling. Ça s'est fait avec une expérience respective qui est différente entre David et moi. Moi, ça faisait 10 ans que je commençais... je gérais des gens.
Donc tu avais déjà une expérience managériale.
Il y a quand même un parcours de 10 ans chez Vivendi qui est, même si j'étais dans un cadre serré, ça laisse des traces et ça laisse des bonnes habitudes qu'on garde. Et puis après, on a été très focalisé sur sur le savoir-être, sur l'envie, sur la passion dégagée par les gens qu'on rencontrait. Dans la mesure où on est resté ouvert en permanence à tout et à tout le monde tout le temps, et on l'est encore, et ben on fait des belles rencontres régulièrement. Alors, on a des gens aujourd'hui qui disent, effectivement, c'est dur de recruter, il y a des gens qui ne savent pas travailler, les jeunes, ça ne va pas. Nous, on n'est pas du tout comme ça. On est plutôt en train de se dire, il y a plein de gens qui sont bien partout. Et pour les rencontrer, ben, faut ouvrir sa...
Il faut ouvrir
ses portes, répondre au téléphone, voir des gens. Aujourd'hui, tu viens au bureau, il y a en intégration sur les fameux stages de troisième, je crois qu'il y en a sept cette semaine.
C'est vrai que j'ai été bluffé en arrivant. Il y avait un monde de partout. Et je me dis, mais vous êtes en plein recrutement. Et tu m'as dit, on a ces maisons ouvertes pour passer le relais justement à ces jeunes générations.
Voilà, donc on leur apprend des choses, on leur réveille l'esprit. Et puis quand on analyse la structure, le socle de l'agence DBCOM, mais aussi des autres structures qui sont en périphérie. Je ne vais pas dire qu'il y a 50% des gens qui ont fait un stage chez nous avant, mais on n'est pas loin quand même.
Oui, c'est vrai que vous avez été un grand pourvoyeur. Enfin, j'en étais vraiment témoin. Vous avez accueilli beaucoup de gens dans leur parcours professionnel aussi. Vous avez échangé beaucoup de fois. Et d'ailleurs, vos locaux en sont d'ailleurs l'expression. C'est très parcellisé. Ça rentre, ça sort. Il y a plein d'activités. D'ailleurs, on parlera un peu des activités, mais c'est vrai que vous avez cette ouverture d'esprit.
Je crois que la première baseline de DBCOM, agence DBCOM, l'esprit d'ouverture, je pense que c'est resté en 25 ans. On est un petit peu plus vieux, mais on n'est pas encore complètement fermé.
Bon, ça c'est essentiel.
Et je crois véritablement que je reviens quand même sur le côté des idées, sur le fait d'innover, de prendre des risques, oser. Mmh. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une tendance où la société elle a évolué, les générations ont évolué, le monde change effectivement. Mais il faut toujours avoir ce côté un petit peu de grain de folie, d'oser, qui ne tente rien à rien. Si on écoute toutes les personnes, le jour où tu as été présent, par moment, Raphaël, hein, je vais monter ma structure, je vais faire ça, bon, tu crois pas. Enfin, ne pensez pas du tout comme ça. Si vous avez envie, vous l'attendez, vos rêves, vos objectifs, faites-le, tentez. Même si vous n'aboutissez pas à votre rêve, au moins, vous aurez au moins tenté l'expérience. Et je trouve que c'est hyper important. Et d'avoir l'association avec Eric et David telle qu'on l'a, je pense qu'effectivement, c'est un bon exemple. Et puis, ouais, oui, effectivement, on est toujours ensemble. Puis il y a parfois des choses où on n'est pas forcément d'accord, mais il n'y a jamais vraiment eu de... quasiment pas, franchement, quasiment pas.
Après, dans le portrait d'entrepreneur que tu essayes de faire avec nous deux aujourd'hui, je pense que la chose dont il faut parler et qui intéresse beaucoup de gens avec qui on échange, c'est l'ouverture de capital qu'on a faite il y a 7 ans.
Oui, donc c'est le partage de la valeur.
Qui est un peu atypique. Donc je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler.
Oui, parce que tu as raison de le préciser, mais vous êtes très rare, puisque j'ai rencontré des associations capitalistiques dans les interviews que j'ai pu faire, ou des gens qui n'étaient pas associés ou qui s'étaient désassociés. Mais vous avez une particularité, tu as raison d'aborder le sujet, c'est que vous avez partagé la valeur avec les gens avec lesquels vous avez créé DBCOM.
Oui, on a, à un moment donné, on a choisi d'associer nos jeunes talents, alors qu'ils ne sont plus tout à fait très jeunes, puisque ça fait longtemps qu'ils sont talents avec nous. Mais aujourd'hui, on est 5 associés à part égale. Et on prend toutes les décisions à 5. Et on a amorcé une transmission avec ces jeunes qui ont entre 40 et 45 ans, et on n'a pas attendu d'avoir 65 ans pour le faire. On voulait pérenniser l'entreprise et on voulait vraiment solidifier un socle qui puisse nous permettre de passer les tempêtes qu'on vit depuis quelques temps, qu'elles soient Covid ou crise financière.
Oui, parce que tout ça n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien. Et vous avez vécu de nombreux projets avec de très belles réussites, mais aussi, j'imagine, comme tout entrepreneur, des moments un peu compliqués.
Oui, mais ce qui est aussi important, je pense, par rapport à ce qu'Eric évoquait sur le fait d'être maintenant 5 associés, initialement, on crée DBCOM, le avant-poche, des opportunités. Et comme on le disait au départ, la communication... Vous ne connaissez pas, mais en fait, les personnes qui ont intégré l'agence, ce sont ces personnes-là en fait, qui ont permis de contribuer à amener un œil nouveau, des connaissances, des compétences. Tiens, ça peut être quelque chose d'intéressant, il faut le faire. Bah allez-y, on y va ensemble. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, DBCom sur le territoire normand, on est une agence normande, nous sommes à Vray. Bah, c'est effectivement une entité qui est quand même à part entière avec 5 pôles d'activité. Tu fais du conseil en stratégie de com, tu as des chargés de com, tu fais de la création graphique, du web digital, de l'événementiel. Et ça, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire qu'on contribue à l'animation aussi de notre ville, que ce soit par LM & Co avec Lise et l'Amazon ou Gamba de manière générale depuis quelques années, au même titre que la Transat Jacques Vabre où notre agence est l'agence officielle pour les hospitalités depuis maintenant 12 ans. Donc c'est aussi un élément qui fait qu'il y a une certaine fierté, des compétences, bien sûr qu'on les a, on le sait. Mais après, c'est aussi de poursuivre, de continuer avec ses valeurs, ses connaissances et ses qualités de travail.
Ouais, c'est le partage, la création de valeur ajoutée et le partage de cette valeur. Donc ça, c'est, finalement, vous avez fait venir des talents et vous les avez, et ils ont reconnu votre capacité à les fédérer. Mais derrière, vous leur avez rendu aussi cette, entre guillemets, l'appareil de contribuer à participer à cette aventure.
Oui, association à part égale. Mais puis la grosse contrepartie, c'est qu'ils nous aident aussi à naviguer sur cette autoroute de la communication qui dure depuis 25 ans, où il y a plein de virages, des fois un peu serrés, l'évolution du numérique, l'apparition de plein de nouveaux supports. On a
c'est vrai que c'est très sujet à l'innovation. La communication, si tu n'innoves pas, tu es par nature très vite dépassé et tu meurs.
Ouais, il n'y a pas beaucoup d'agences de com en province qui ont 25 ans, quoi. Donc... Ça tient à une équipe avec des âges différents, des profils différents, des compétences différentes.
Oui, puis une innovation en fonction des domaines d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation, elle peut être sur le monde. On parlait d'IA, OK, des évolutions, le web. Il y a 20 ans, on ne connaissait pas, on ne savait pas qu'on allait faire des sites Internet. Mais c'est un peu la même chose sur le domaine événementiel, hospitalité, relations. Enfin,
ouais, il faut une vraie ouverture d'esprit.
Oui, ouverture d'esprit. Puis aussi, véritablement, en ce qui me concerne, moi, je suis à Vray d'origine. Donc, ça fait 55 ans que je suis ici. J'ai un parcours peu d'études, OK, mais je suis bien ancré, tant par ma vie perso, le foot, les connaissances, les contacts. Mais c'est cette richesse, en fait, humaine que j'ai pu rencontrer de l'âge de 10, 11, 12 ans. Je continue à avoir des gens depuis 45 ans. Ce sont des amis perso ou dans le boulot. Et de pouvoir véritablement associer l'image du travail que l'on fait sur des animations de ma ville, moi, j'en suis hyper fier. Et c'est une vraie richesse. Pas forcément financière, mais une richesse humaine avec des valeurs qui sont... c'est génial. Enfin, franchement, c'est génial.
Alors, une autre question, mais qui est plus sur... lié à votre expérience, alors pas à votre grand âge, parce qu'on en est le même. Mais si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui à quelqu'un qui se lance, qui décide d'entreprendre, est-ce que... Alors ça peut être un conseil de prévention, un conseil d'action, enfin je ne sais pas, est-ce que vous auriez un message à faire passer à... Parce qu'on voit bien que ça foisonne aujourd'hui, tout le monde veut se mettre à son compte, mais ça a quand même ses limites. Est-ce qu'il faut un profil particulier selon vous? Est-ce qu'il faut, en tout cas, des compétences particulières?
Bon, après, je peux essayer de répondre, mais c'est il n'y a pas de vraie réponse. Ça va dépendre du domaine d'activité sur lequel on veut s'aventurer. Je pense que la base, c'est d'être bosseur.
Alors, oui, ça, c'est pas compter ses heures.
C'est pas idiot de le dire, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier que la base d'un entrepreneur, c'est de bosser comme un taré pendant un sacré paquet de temps. Donc, il faut être bosseur, il faut arriver à être efficace. Il faut arriver à partager ses idées avec quelqu'un parce qu'on n'a pas la science infuse. Il faut arriver à allier des compétences de stratégie, de côté opérationnel. Il faut comprendre les chiffres.
Il y a comme une notion effectivement de plaisir en plus sous-jacente.
Il faut
se lever le matin avec...
T'es bien placé pour le savoir d'ailleurs.
Il faut avoir envie.
Il faut absolument avoir envie, puisque créer quelque chose quand il n'y a pas de passion, pas d'envie... c'est pas voué à l'échec, mais il y a quand même pas beaucoup de chances que ça se réalise de bonne façon.
Oui.
Et moi, j'ajouterais un point qui est un point, à mes yeux, essentiel. On parlait de richesse, de rencontres, des individus. Donc, on a des typologies d'entreprises avec lesquelles on travaille qui sont très diversifiées. Ça peut être un petit restaurant d'industrie, une collectivité, OK, très bien. Mais d'une manière générale, c'est le business, il passe par vendre quelque chose, un service... une prestation dans la restauration, des fringues, de la com, vendre. Et aujourd'hui, ça, je pense que c'est un élément, et ça, c'est un élément et une info que j'ai envie de faire passer. Je dis ça parce qu'on est très sollicité dans le domaine de la com, dans l'événementiel, OK, très bien. Là, je m'adresse peut-être à des jeunes ou des futurs qui, se posent des questions. Il y a souvent personne qui vous dit « moi je suis footballeur, je fais le plus beau métier du monde », moi je peux vous garantir que le plus beau métier du monde, c'est pas footballeur, c'est être commercial, apprendre, avoir cette relation humaine, vendre quel que soit un produit, un service, peu importe, mais ce côté de la vente,
c'est quand même basé sur le chiffre d'affaires.
Il faut vendre. Il ne faut pas être non plus sur un focus de chiffres, mais il ne faut pas oublier que sans la vente, il n'y a pas de business.
Après, il y a de la vente, et puis si on est bon, on peut aussi faire en sorte d'avoir des produits que les gens achètent.
Oui,
le pied, c'est de faire les deux. Et comme avec David, on est bien complémentaires, bah nous, on nous achète et puis des fois, on vend.
Bon, ça, c'est quand même. C'est la panacée, ça, finalement. C'est le secret du bonheur, peut-être.
Et un message, parce que je suis parent, donc j'ai des enfants, 29, 23, 16 ans. Là, je m'adresse aux parents, mais en même temps aux enfants. C'est. Si vous avez des rêves, je ne sais pas comment vous êtes, vous avez des qualités, vous êtes peut-être un super électricien, peut-être un super boulanger, peut-être un super vendeur, tu ne sais pas. Enfin, osez, allez-y. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas vivre avec de la frustration, il ne faut pas devenir aigri. Donc, qui ne tente rien n'a rien, et on n'a rien sans rien. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment d'avoir ce côté d'y croire. C'est pas facile, mais véritablement, à un moment donné, quand vous allez arriver peut-être à atteindre vos objectifs, il y a vraiment un pur plaisir, et ce côté de partage, d'échange, c'est quelque chose...
Donc pour se résumer, il faut du plaisir, il faut trouver le bon associé quand on décide de s'associer, ça c'est important. Et puis derrière, on le disait, tout n'arrive pas tout seul, donc il faut une belle capacité de travail, si on se résume, et puis être quand même une vraie motivation, une vraie passion. C'est un peu ce qui vous a d'ailleurs, ce qui peut vous caractériser.
C'est ce qui nous a permis d'être encore là 25 ans après.
C'est beau.
Et de vivre plein de choses.
On va faire une petite pause musicale. Est-ce que vous avez un titre qui vous passe par la tête et que vous voudriez que nous mettions avant d'aborder la deuxième partie de l'émission?
Bon, le teufeur historique là-dedans, c'est David. Hein. Donc,
Non, pas du tout. Je ne connais rien. Je ne suis pas du tout de la fête. Je l'ai été.
Bon, mais ça, c'est une idée libre cours.
Ouais.
Ok, très bien.
Ailleurs, si tu as un Dépêche Mode, tu mets un Dépêche Mode.
Voilà, c'est parti. On se met un petit Dépêche Mode et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
I'll say it again, pain.
Nous revoilà sur Radio Girafe. Je suis donc le R de Girafe et on a passé cette première partie de l'interview avec Eric et David qui nous ont un peu décrit leur parcours. Donc on l'a compris, c'est une association incroyable, 25 ans d'association. Donc maintenant, Eric et David, j'aimerais bien, et vous l'avez précisé, vous êtes de vieux à vrai ou de jeunes à vrai. Je ne sais, oui, jeunes. Enfin, allez, on est toujours
moyen.
Jeunes.
Moi, je ne suis pas à vrai. Hein.
Ah bah tu vas nous en parler. C'est intéressant, comme ça on va avoir deux points de vue. Cette partie-là, elle est consacrée au Havre. Radio Girafe, c'est Radio Girafe Normandie. On va élargir ça à la Normandie, mais là on est quand même très focus sur le Havre. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue. Alors, on a mené déjà quelques interviews, mais chacun a eu a une vision très personnelle du Havre. Donc je sais pas, on peut peut-être commencer peut-être par Eric qui n'est pas havrais d'origine et nous parler un peu de cette ville et ce qu'elle t'inspire.
Je pense qu'au préalable, je vais rappeler d'où je suis.
Ouais.
Donc moi, je suis un Normand pure souche puisque je suis né à Caen. J'ai vécu à Évreux. Je suis allé après faire quelques boulots dans différentes villes, comme Le Mans, qui n'est pas en Normandie. Je suis allé à Nantes, qui est une belle ville, à La Roche-sur-Yon. Et bizarrement, au moment où j'avais une promotion sur un poste de directeur de publication sur un journal à Aix-en-Provence, j'ai choisi de venir au Havre. Donc à cette époque-là, on est en 95, ça a un peu surpris les gens, sauf que le Havre, qui est une ville que je ne connaissais pas, est en Normandie, ça on le sait, il y a la mer, c'est vachement sympa. Et puis, assez vite, malgré la première approche, c'est un mois de novembre, sur le pont de Normandie, avec une belle brune comme il faut là, et puis
c'est un canet qui parle du Havre, donc c'est intéressant.
Ouais, c'est un canet, donc la première approche elle est un peu trash. Là on était en 95 et on est 30 ans plus tard et j'y suis encore parce que je pense que le choix était bon. La vie havraise, elle est magique, la ville est magique, la plage est magique, tous nos copains, enfin tous mes copains canets, parisiens ou encore plus rouennais, lorsqu'ils viennent au Havre, ils comprennent que c'est une ville très très sympa à vivre. Je pense qu'on est au bon endroit, c'est un embryon de créativité. Alors c'est pas même si les gens de l'extérieur pensent que c'est une très très grande ville, une belle métropole, on est quand même sur uniquement 220-230 000 habitants. Mais c'est ce qui fait le charme aussi et ce qui nous apporte un confort de vie magique. Et quand je dis nous, c'est pas que les gens de 55 ans, c'est aussi les jeunes qui vont faire du kite le midi. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment une ville extraordinaire. On a essayé d'apporter avec David un peu de créativité sur quelques produits ou quelques événements qu'on a créés au fil de l'eau. Voilà. Et puis on en a encore un peu sous le coude. Donc je pense qu'on va continuer à essayer d'accompagner le mieux possible le développement de cette belle métropole.
Là, il y a une question intéressante, puisque là, tu as un regard cané. Alors, on voit bien, comment tu expliques justement j'ai parlé de difficulté, mais en tout cas, il y a une vraie histoire entre les Rouennais, les Canets, les Havrais. Personne ne connaît vraiment la ville de l'autre. Alors, c'est peut-être plus facile entre le Havre et Rouen. Quand on va nous dire qu'avant, il n'y avait pas le pont de Normandie, mais il y a quand même une vraie séparation. Il y a de nombreux vrais qui sont rarement allés à Caen. Les liaisons se font peut-être pas facilement. Comment tu, étant toi natif de Caen, tu expliques ça? C'est quand même étonnant sur la Normandie. C'est pas facile à faire comprendre.
Pour moi, c'est assez simple. Le pont de Normandie, je crois qu'il a été inauguré en 92. Historiquement, les gens qui habitent au sud ne remontent pas au nord. Donc, quand on est à Caen et qu'on a l'impression d'être sur la meilleure ville du monde, parce qu'il y a la pierre de Caen, il y a un petit bassin en centre-ville et la mer est à 30 km, on n'imagine pas qu'un petit peu plus haut, la mer elle est en centre-ville, qu'il y a des bassins partout et que la ville est magique. Ça, c'est pour les Canets. Pour les Rouennais, ils sont plutôt aspirés par, on va dire,
la dynamique parisienne.
Le côté un peu parisien, ils sont dans leur bouchon et tant qu'ils n'ont pas qu'ils sont pas revenus effectivement sur cette ville où il n'y a rien au bout, on a que la mer au bout, ils ne comprennent pas que cette ville elle est belle, donc il faut arriver à les amener et c'est le phénomène qui se passe depuis 20 ans, c'est que
ça a considérablement évolué.
On invite des gens à passer un week-end chez nous. Des fois, ils font un peu la tête parce qu'ils disent « Ouais, bon, je vais voir Raph au Havre, ça va pas être drôle. » Mais c'est quand Raph les amène à la mer ou les amène à la forêt de Monjon, tes copains parisiens disent « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là »
C'est bien, on est des ambassadeurs, on est peut-être, j'allais dire obligés, maintenant c'est vraiment une vraie passion. Et puis c'est vrai que les générations du dessous se sont réappropriées considérablement la ville, et c'est devenu magique.
Hein, ouais, et puis c'est un peu comme une pépite, tant que tu ne l'as pas vue, tu ne te rends pas compte.
Ça, c'est... Bah, merci Eric pour cette analyse d'un canet repenti. Toi, tu es donc le...
Je suis le local de l'étape. Non mais là, je trouve l'analyse et les remarques d'Eric très intéressantes. Alors moi, effectivement, je suis à Vray d'origine. C'est vrai que cette ville, elle est déjà particulière. Hein. C'est, pour venir au Havre, il faut venir soit par le pont de Tancarville, pont de Normandie. Donc on y va, on n'y passe pas. C'est une ville avec une ville haute, une ville basse. Je dis ça parce que moi, je suis issu plutôt des quartiers du Bois de Bay quand j'étais gamin. Tu déménages avec tes parents, j'ai connu mon club de foot et je fais un petit clin d'œil aux Tréfileries. Donc tout ça, ça m'a permis de voir différents quartiers, différents lieux, différentes typologies de personnes avec lesquelles j'ai pu échanger.
Ce côté populaire, il est intéressant parce que c'est vraiment des populations qui ont vécu ensemble, qui ont partagé plein de choses, et je trouve qu'avec le temps, tout ça, il y a une vraie mixité sociale qui s'est installée au Havre, que je trouve super intéressante.
Et sociale, puisque tu es aussi très cosmopolitain, enfin, qui est pour moi une évolution du monde, hein, d'une manière générale. Mais pourquoi je voulais revenir là-dessus, sur les différents univers dans lesquels j'étais, quand après je m'en trouve gamin, Raoul Dufy, après dans le côté plutôt du quartier centre. N'oublions pas qu'il fut un temps, la ville du Havre était critiquée par les Havreux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a été pendant des années être les premiers, non pas ambassadeurs, mais les premiers à critiquer la ville. Et force est de constater, depuis de nombreuses années, ça a beaucoup évolué. Alors oui, une ville détruite par la guerre, ok, très bien, reconstruction opérée, super. On aurait pu accueillir 300 000 habitants, hein, tel que ça a été refait. Puis je pense qu'il y a eu aussi, alors je ne veux pas faire de politique du tout, mais il y a une bascule qui passe à un moment donné où il y a des grands projets de la ville qui se mettent en place.
Il a contribué. Enfin,
et je dis ça, je ne rentre pas du tout dans un message politique, mais il y a une bascule. Une bascule qui est l'UNESCO, la bascule qui est le tramway. Et le tramway, parallèlement, c'est aussi un élément de l'agence Abiacom, avoir travaillé, contribué à pas mal de choses sur cette opération. Mais quand on regarde ça, le tramway, 12-12-2012, hein, c'est ça. Hein, ça fait 12 ans. Et en 12 ans de temps, je trouve qu'il y a un vrai embellissement de la ville, il y a un respect du tramway, quels que soient les quartiers. Et quand je dis quartier, c'est aussi une ville qui a cette particularité. On habite au Havre, mais j'habite à Saint-Vincent, ou j'habite au Havre, j'habite au Gobelin. Enfin, et voilà, je trouve que c'est une ville aujourd'hui qui a... Alors bien sûr qu'on peut critiquer le Havre, il y a plein de gens qui n'aiment pas le Havre, je le comprends, mais par rapport à ce qu'Éric disait, ce que je peux dire, peut-être qu'on vit cette ville avec cette particularité du métier qu'est le nôtre, ou de...
Oui, parce que vous êtes très investi.
Bah, on est très investi, tu rencontres du monde, tu as du réseau, ok, très bien. Donc ça rend la ville avec un certain nombre que tout le monde n'a pas forcément. Donc ça, c'est un côté très privilégié et moi, j'en suis très fier. Et je suis hyper fier d'être à Vray. Puis je fais un petit clin d'œil pour notre équipe de foot. Faut pas lâcher l'affaire. Ce côté ouvrier, on va pas lâcher l'affaire. Donc voilà. C'était plus fort que moi, désolé, mais il fallait que je le dise.
Quand on a une passion, de toute façon, quand on a une passion, on la partage. Donc une dernière question sur les. Le bâtiment, tu peux me répondre le stade Océan, hein, si tu veux. Est-ce qu'il y a votre bâtiment emblématique du Havre, pour vous? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns maintenant, entre les bâtiments éphémères qui ont été mis, les bâtiments historiques. Qu'est-ce qui...
Pour moi, deux.
David.
L'église Saint-Joseph.
Ouais.
Ouais, même trois. L'hôtel de ville et la Catène.
Voilà. Ouais, la Catène, c'est intéressant.
Depuis 1517, les 500 ans du Havre, c'est pour moi un nouvel...
Un emblème, ouais.
Ouais, un nouvel emblème depuis les 500 ans du Havre.
Et toi, Eric?
Bah, si je veux pas dire comme toi, faut que je trouve autre chose.
Ah, mais t'as le droit, non, mais vous avez le droit. Attends, vous êtes associé, vous avez le droit d'avoir les mêmes goûts. Hein.
Moi, je vais pas dire bâtiment, je vais dire l'avenue Foch, qui, pour la petite histoire, est plus large que les Champs-Élysées. Donc, ça, c'est quelque chose.
De quelques centimètres.
Ouais. De 10 mètres, je crois. 80 mètres, l'avenue Foch, 70 mètres, les Champs-Élysées.
C'est beau.
Et puis, ce qui est au bout de l'avenue Foch, quoi. L'esplanade de la plage avec ce bord de mer qui est magique.
Ça, c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est de Port-Océane, parce que c'est comme ça qu'est caractérisée la ville, mais ça a redonné un peu cette lettre de noblesse à cette vraie Port-Océane avec le tramway. Tu parlais du tramway, ce tramway qui passe à travers la Port-Océane, c'est devenu très emblématique.
Et la plage, et c'est vrai que la plage, c'est pas un monument, mais je rebondis par rapport à ce qu'Eric évoque, c'est vraiment un lieu de vie. Il fait parfois très, très, très beau, très chaud au Havre. Et c'est effectivement quelque chose que je trouve top, même s'il y a des galets. Puis on a une super belle vue, on voit Deauville, et ça aussi, c'est un avantage, je le dis. Le fait d'être à Vray Et n'oublions pas ça, le fait d'habiter au Havre, bah, c'est aussi 30 minutes de Deauville, 30 minutes d'Étretat, la Côte Fleurie, le Pays de Caux, pas loin de Paris. Donc on est vraiment, voilà, je trouve qu'on est dans un positionnement qui n'est pas si inintéressant que ça, bien au contraire. Et voilà, bon, c'est un air de vivre. Mais toi, Raphaël, t'es un bon exemple. Tu es à Vray, t'es parti à Paris, puis allez, bah, t'es revenu, si je ne dis pas de bêtises.
Ah bah, oui, puis j'étais pas le seul à l'avoir fait. Hein. Mais en l'occurrence, il faut qu'on fasse attention de faire une trop belle promotion du vin, sinon on va se retrouver trop nombreux dans notre, dans notre havre de paix. Bon, non, il y a encore de la place. Bon, messieurs, alors on va clore notre conversation. Pour terminer, j'ai toujours la même petite question. Je demande à mes interlocuteurs quel genre de girafe ils sont. Est-ce que vous avez chacun en portrait chinois l'idée de la girafe que vous pourriez représenter? Alors, on a eu pas mal de, pour vous aiguiller, on a eu pas mal de girafes. Hein. On a eu des girafes festives, on a eu des girafes épicuriennes, on a eu des girafes architecture, on a eu des girafes professionnelles.
Alors moi, je crois que je suis le E de girafe. Tu le savais pas, ça, hein?
Non. Ah. Ouais, bah, mais t'es bienvenu, parce que c'est une grande communauté.
E comme Eric et comme épicurien. Épicurien de la vie en règle générale. Aussi bien sur les produits et les activités qu'on réalise avec David, que épicurien sur les villes que je vais découvrir à droite à gauche en permanence, que sur tous les sports que je pratique. Ouais, épicurien.
Épicurien. C'est bien, je crois qu'on en a déjà une, je te la présenterai. Et toi, Mandeline ?
Faut que je choisisse une lettre.
Non, tu choisis la girafe que tu voudrais être dans notre communauté.
Ouais. Elle peut être. Moi, je pense que je suis quelqu'un, j'ai envie de dire, de solaire, souriant, positif. Et
bah tiens,
même si effectivement,
tu seras notre girafe solaire. Il nous en fallait une.
La girafe solaire. Non, mais c'est vrai, la girafe solaire, souriant, positif, c'est important. Parce que voilà, c'est pas toujours facile, mais voilà, rendre les choses, même quand c'est difficile, délicat, Dieu sait que ça arrive à tout le monde, bah, d'essayer de rendre les choses effectivement. Ouais, solaire et positive. Il n'y a jamais de problème dans la vie, il n'y a que des solutions.
Et ben on va terminer sur cette jolie phrase. Merci, un grand merci à vous deux pour cette conversation. Et on se retrouve très vite sur Radio Girafe et sur l'application qui sortira dès le mois de janvier.
Merci à vous.
Merci David, merci Eric.
Merci R.
Merci E. Allez, ciao.